Beaucoup, Dan, pour cette présentation, chers collègues, pour cette présentation flatteuse. Enfin, étant donné mon grand âge, 108 ans sur Google, c'était très différent, propre à l'âge. Non, plaisanterie à part, il faudra corriger cette chose que j'ai vue aussi aujourd'hui, que j'avais 108 ans. Bon. Et plus j'en viens au cœur de ce sujet, effectivement, le prétexte, si je puis dire, de cette conférence, c'est l'ouvrage que j'avais publié en 2009 sur l'histoire de la Sicile et qui a rencontré un petit succès. On est dans des succès de sciences humaines, hein. Ce ne sont pas les tirages de notre collègue ici, géographe Michel Bussy, hein, qu'on se comprenne bien, mais qui, malgré tout, a rencontré un succès, et donc le livre est passé en poche. Et ce succès, il s'explique, je crois, pour une raison. Alors, il y a peut-être... Ça, je ne parlerai pas des qualités du livre ou des défauts du livre, mais la Sicile, c'est 400 000 visiteurs français par an. C'est l'île où les touristes sont les premiers, de loin, sont les Français, talonnés par les Allemands, et ensuite il y a vraiment un fossé avec les autres pays. Il y a un amour, tu le disais dans la présentation, un amour pour la Sicile, et quand on va en Sicile, quand les Français vont en Sicile, c'est pour un tourisme essentiellement, je dirais, de nature culturelle, parce que on n'y va pas pour les plages ou pour la farniente. Et on peut bien sûr mélanger le culturel et le repos, bien évidemment, mais il y a indéniablement une dimension fortement culturelle. Et je crois que pour avoir eu des lettres, ça c'est le côté agréable d'écrire un livre, on reçoit des fois des lettres, pour les gens qui disaient « oui, ça nous a accompagnés » ou après ou avant le voyage. Et donc finalement, ce livre, dans le quatrième de couverture, il est présenté comme un vade-mecum. Bon, il était un peu gros dans la première édition, la deuxième, ça peut plus facilement se glisser dans une poche. Mais c'est vrai qu'il a été conçu, non pas comme un guide, mais pour accompagner celui qui souhaiterait approfondir telle ou telle partie. Alors c'est évidemment une gageure, quand on est un historien spécialisé dans une période, de parler d'une période qui va de la préhistoire jusqu'à nos jours. Hein, j'ai arrêté l'ouvrage en 2009 avec l'élection de Leo Luca Orlando, ce grand maire qui a été élu à Palerme et qui d'ailleurs, j'espère, sera un jour réélu. Alors, ce livre, il a été guidé pas simplement par l'idée de faire connaître la Sicile, mais d'essayer d'enlever des voiles, des préjugés, des prismes qui en déforment l'histoire. Ces prismes, ils sont au nombre de trois principaux. Le premier qui peut-être nous vient tous à l'esprit, c'est l'association entre la Sicile et la mafia. On le disait d'une manière, en plaisantant avec Dan, c'est la mafia qui voulait empêcher cette conférence en mettant le feu à une voiture. Bon, au-delà, même la plaisanterie est significative. Sicile, on associe à mafia. Alors, soyons clairs, je ne nie pas que la mafia et la Sicile entretiennent des liens. Mais ce que je me refuse, c'est de faire de la mafia la clé explicative de l'histoire de la Sicile. Et après tout, la Sicile, dans ce livre qui comprend 20 chapitres, 20 chapitres qui sont écrits dans l'ordre chronologique, hein, il n'y a pas un suspense, il n'y a pas de flashback ou de choses comme ça qui n'auraient pas grand sens, ne vient que dans le 18e chapitre. Parce que la mafia, du moins sous sa forme moderne, il peut y avoir toujours des formes de proto-mafia, n'arrive véritablement qu'avec le 19e siècle. Et donc faire de la mafia la clé explicative de toute l'histoire sicilienne, c'est totalement pour moi quelque chose qui relève du préjugé. Préjugé, tu le disais, entretenu peut-être par l'idée que il y aurait une mentalité sicilienne qui prédisposerait à justement ces formes de mafia. Et tout de suite, finalement, pour régler son sort avec la mafia, je voudrais... Excusez-moi, un tout petit peu de manipulation, mais on y arrive, il n'y a pas tant de photos. Voilà. La mafia, on la voit à travers un prisme aussi déformé qui est essentiellement à travers le cinéma. Or, Al Pacino... célèbre dans Le Parrain, Déjà, c'est pas vraiment la mafia, ça se passe aux États-Unis. Et puis ensuite, Al Pacino, si vous êtes un fan comme moi de la trilogie du Parrain, il ne cherche qu'une chose, c'est à s'en sortir, à quitter la mafia. Or, les gens, les mafieux, ne cherchent absolument pas à quitter la mafia, mais au contraire, la renforcent. Et donc là, je crois qu'il y a une image qui fausse aussi la vérité de la mafia. Et c'est pourquoi moi, je me refuse à faire des conférences sur la mafia, mais je parle toujours de l'anti-mafia. Ça, c'est le premier maxi-procès de la mafia. On est en 1901. Vous voyez, ils sont dans une cage tellement ils sont nombreux. Et puis, les héros de l'anti-mafia. Le général Della Chiesa, peut-être aussi, avez-vous vu le film avec Lino Ventura ? Voilà, là, un général qui voulait justement lutter contre la mafia. Et lutter contre la mafia, il avait une idée très forte. Il avait dit, lutter contre la mafia, c'est d'abord changer la société civile sicilienne. Faire que justement, elle dénonce la mafia. Et finalement, son œuvre, qu'il l'a payée très cher, puisque vous le savez, qu'il a été tué avec sa femme et son garde du corps, il a été d'une certaine manière un peu aussi sacrifié par l'État, qui ne lui a pas donné les moyens, puisque vous savez que la loi qu'il réclamait a été votée après sa mort. Justement, une loi pour combattre la mafia. Alors, une autre figure, de la Chiesa, je dirais, c'était figure démocrate chrétienne, Pio La Torre, député communiste d'Agrigente, qui lui aussi sera tué par la mafia. C'est ce qu'on appelle les cadavres exquis, c'est-à-dire les cadavres de personnalité, cadaveri eccellenti en italien. Pio La Torre, il a fait une loi, tout communiste qu'il est, inspirée de la loi du FBI qui a permis de mettre Al Capone sous les verrous, c'est-à-dire de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Vous savez que c'est très dur de prouver qu'il y a eu des assassinats, etc. Qu'est-ce que Pio La Torre a dit ? Bien, dans ce cas-là, faisons des enquêtes lorsque l'on voit que telle ou telle personne qui a priori n'a rien est un pauvre paysan, possède une grande voiture, possède un grand appartement, possède ci, possède ça. À partir de là, il y a des enquêtes. Et je peux vous dire que les lois votées après Della Chiesa et la loi Pio La Torre ont permis véritablement un combat magistral contre la mafia, dont peut-être la plus belle figure, même si elle est aussi controversée, discutée, c'est le beau sourire de Giovanni Falcone, où je pense que ce nom vous dit quelque chose, ce juge qui a été tué d'une manière très spectaculaire, puisque entre la route de Palerme et Punta Raisi, c'est l'aéroport de Palerme, la route a absolument explosé. Sans doute que la mafia là, a loué les services de terroristes internationaux pour faire voler la voiture, celle de l'escorte. Ça a été absolument. Moi, j'étais à Palerme à ce moment-là. On a entendu la détonation de Palerme. Bon, on ne savait pas évidemment que c'était ça. Donc là, ce sont ces héros aussi de la lutte anti-mafia. Et donc, je crois que là, il faut casser ce premier préjugé de la Sicile comme terre de la mafia. La mafia existe, elle n'explique pas, on ne peut pas résumer l'histoire de la Sicile à celle de la mafia. Deuxième préjugé, celui-ci plus littéraire, c'est celui qu'on trouve dans le livre que vous connaissez peut-être, Le Guépard, de Tomasi di Lampedusa, qui a été aussi immortalisé par le film de Luchino Visconti, même si le film ne centre que sur une partie du livre, le livre étant plus couvrant une amplitude temporelle plus importante. Et vous avez cette scène très célèbre, qui d'ailleurs est reprise dans le film, quasiment où on cite le livre, où le prince, recevant un envoyé du Piémont qui lui demande de devenir un sénateur du royaume, du nouveau royaume d'Italie qui est né en 1861, décline l'offre et se lance dans un célèbre discours que nous, spécialistes, on appelle le sicilianisme, c'est-à-dire où il justifie son refus de participer en disant que les Siciliens ont une histoire à part, ou plus exactement que l'île, par son climat, par la mentalité de ses habitants, échapperait d'une certaine manière à l'histoire. Et je voulais même intituler ce livre « Pour une histoire de la Sicile », justement pour aller contre ce préjugé que la Sicile, par sa spécificité, serait comme une île qui échapperait à l'histoire. Avec cette idée que le prince développe, mais qui est largement reprise, qui est presque devenu un lieu commun, que toutes les strates d'envahisseurs qui seraient venues depuis les Grecs jusqu'au Piémontais, au XIXe siècle, aurait laissé, évidemment, des beaux monuments, aurait laissé des traces, mais n'aurait pas atteint le cœur, là. Ce qui fait la spécificité des Siciliens. Oui, mais ça, c'est bien beau, mais c'est une réussite littéraire, hein, Le Guépard. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un des plus beaux livres et un des plus beaux films qui existent. Je crois qu'il est d'ailleurs considéré comme dans les 10 chefs-d'œuvre du cinéma. Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Terence Hill. C'est un film extraordinaire. Mais, d'ailleurs, Visconti dénonce d'une certaine manière cette idéologie. La Sicile, c'est une terre traversée par l'histoire. Et précisément, si j'ai voulu montrer une chose dans ce livre, c'est que la Sicile, elle est au cœur de l'histoire de la Méditerranée. Quelquefois, elle en est le cœur, quelquefois, elle en est la périphérie. Elle n'est pas toujours centrale, mais elle est en tous les cas toujours dans un grand ensemble de civilisations. Et on va les parcourir, ces grands ensembles de civilisations grecques, romains, etc. Mais elle n'est pas à part, elle n'échappe pas à l'histoire. Elle n'est pas, par son climat ou par la mentalité de ces gens, à part. Et puis, troisième préjugé, mais celui-ci peut-être moins diffusé, moins important, ce serait, et qui renverrait un peu au deuxième, une sorte de spécificité de cette population qui aurait d'une certaine manière été insensible, sur laquelle auraient glissé les différentes strates de la civilisation, là où encore les Siciliens font pleinement partie, aujourd'hui, je veux dire, par exemple, par leur langue, etc., du monde latin. Mais c'est vrai, avec des spécificités, importance d'un substrat de culture grecque, une période espagnole extrêmement longue. Donc, on a là une île qui a, je veux dire, une force, une originalité, mais dont qu'il convient de ne pas exagérer, au risque, d'une certaine manière, d'effacer, vous voyez, dans tous les cas, l'assimilation à la mafia, l'idée que les grandes civilisations auraient glissé sur elle, c'est toujours lui nier qu'elle est une histoire. Or, ce que je veux montrer, c'est que la Sicile a une histoire, et une histoire particulièrement importante, et qu'à chaque fois, elle est inscrite dans un grand moment, dans une grande civilisation. Alors, elle a la chance, la Sicile, d'entrer dans le patrimoine de l'humanité, c'est pas donné à toutes les régions, c'est pas donné à toutes les îles, c'est pas donné à tous les pays, avec Homère. Puisque c'est Homère, dans sans doute, d'après les spécialistes, les morceaux les plus anciens de l'Odyssée, donc particulièrement anciens, qui parle de cette île. Alors, c'est toujours le problème, hein, on n'est pas sûr que, voilà, c'est Homère n'écrit pas un livre de géographie, hein, Ulysse, c'est pas un livre de géographie, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aurait des références à l'île qui se trouve dans Homère. Et en particulier, cette jolie expression que Chiachia bien plus tard reprendra, la mer couleur de vin qui borde la Sicile, je trouve que c'est une très belle description, parce que quand on regarde cette mer, effectivement, elle a une couleur, des reflets violets, une couleur de vin. Et je trouve cette expression très belle qui vient d'Homère, qui a été d'une certaine manière immortalisée par Homère et une nouvelle fois immortalisée par Chiachia, qui en a fait le titre, hein, d'un de ses recueils de nouvelles. Alors, la Sicile, je laisse de côté la préhistoire. Elle connaît évidemment une préhistoire, elle connaît différentes strates de population, avec d'ailleurs une chose intéressante, juste, c'est qu'elle a plusieurs, j'emploie le vocabulaire un peu technique, plusieurs faciès, c'est-à-dire plusieurs aspects. Elle n'est pas, il n'y a pas une seule population, elle n'est pas très grande, la Sicile, mais il n'y a pas une seule population. Entre l'Est et l'Ouest se dessinent vite des différences. En particulier, l'Ouest de l'île aura une influence phénicienne beaucoup plus importante. On est à un jet de pierre, enfin plutôt à quelques heures de navigation des côtes de l'Afrique, en particulier de la Tunisie, hein, quand on est à Marsala ou dans le sud, et tandis que le faciès oriental de l'île est beaucoup plus grec. Et la Sicile, elle est au cœur de ce que l'on appelle la civilisation grecque, la koiné grecque. Le premier ensemble de civilisations auquel elle appartient, c'est le monde grec. Et là, elle n'est pas du tout marginale. Méfions-nous de l'expression des colonies grecques. Colonies, nous évoquent par notre culture, française ou même italienne, il y a des gens ici d'origine italienne, l'idée d'une colonisation récente faite au XIXe siècle. Le mot « colonie » est un mot d'origine latine. Donc, quand on parle de colonie grecque, en fait, ce sont des gens qui quittent une ville pour aller en fonder une autre. Et les liens entre la colonie et la métropole, en général, ne sont pas si forts que ça. Il n'y a en aucun cas une domination de la métropole. Donc, on a des villes en Sicile qui sont des villes qui incarnent, représentent, sont totalement emblématiques de la civilisation grecque. Et on en a encore aujourd'hui des vestiges, le temple de Ségeste, extraordinaire temple. On est vraiment saisi, je ne veux pas faire tomber dans le lyrisme, mais quand on regarde ce temple, un peu, vous voyez, tombé la nuit, hein, souvent les horaires sont jusqu'au coucher du soleil, fino al tramonto del sol. Et ça, on essaie de profiter des derniers moments avant que les gardiens vous sifflent pour quitter les lieux. Là, on est vraiment saisi. Vous savez, les Grecs, c'est le génie des sites, hein, le génie des lieux. Là, le temple de la Concorde, Agrigente. Agrigente, c'est toute une vallée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, l'autre faciès, Motsia, cet éphèbe extraordinaire qu'on a retrouvé dans l'eau. Là, l'archéologie, des fois, c'est des miracles, hein, 5e siècle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit son manteau. Alors, je mets diaporama, je clique sur diaporama. Est-ce que vous voyez mieux ?
Non, vous cliquez sur afficher à partir de la.
Alors, attendez, à partir de. En haut, j'ai cliqué sur diaporama. Enregistre. À gauche. Là ?
Voilà.
OK.
À partir de la diapositive.
À partir de la diapositive. Voilà.
Et puis après, vous faites avec les flèches.
Et c'est mieux ?
Ça devrait.
Attendez. Ah, affiché.
C'est bon.
Ah bon, d'accord, c'est bon. Vous voyez mieux ?
Oui.
Bon, OK. Merci, hein, excusez. Et donc, vous voyez justement là le dessin, hein, qui représente cette espèce de... C'est en marbre, hein. On voit le vêtement, comme ça, qui colle à la peau de cet éphèbe. On a là une des œuvres, évidemment, les plus belles et les plus spectaculaires. Donc, je le disais, la Sicile est pleinement représentative au cœur de la culture grecque. J'en donnerai quelques preuves. Platon fait 3 voyages en Sicile. Faire des voyages à cette époque, c'est quand même un peu plus compliqué qu'aujourd'hui, quoi. 3 voyages. Oui, d'ailleurs, ça se passe pas très bien parce que avec Denis, père et fils, finalement, il n'a qu'une idée. Bon, vous savez, il veut faire du philosophe, il veut faire du roi un philosophe, mais ça marche jamais, ça. Hein. Donc, ça se passe pas très bien, mais c'est significatif qu'un des plus grands intellectuels de la Grèce décide d'y aller. Et vous en avez d'autres figures, Archimède, hein, Théocrite pour la poésie. Bon, vous avez là, elle n'est pas absolument marginale, elle est au cœur de la civilisation grecque. Et entre autres, on y trouve aussi des figures politiques intéressantes, comme les fameux tyrans. Hein, alors les tyrans, nous aujourd'hui, le mot tyran, voilà, a une connotation négative. Les tyrans, c'est aussi, tu parlais de mon goût pour les idées politiques, c'est aussi une invention politique, une nouvelle manière de gouverner les territoires. Et là, on en trouve aussi des expériences extrêmement intéressantes en Sicile, dans la Sicile de cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que les Romains découvrent le monde grec en faisant la conquête de Syracuse. La première grande ville grecque dont ils s'emparent, c'est Syracuse, sur la côte orientale de la Sicile. Alors, je sais, comme là, je ne vois plus, mais voilà. Alors, vous l'avez là ? Et je clique dessus ? Voilà. Voilà le théâtre grec de Syracuse. Et ici, le théâtre grec de Taormine. Bon, ça fait un peu rêver, hein, je les ai choisis, les photos quand même. Là, ça nous sort de la grisaille. Hein, reconnaissez que ça vaut le coup juste d'être venu pour ça, quoi, hein, voir un peu de ciel bleu. Des sites magnifiques, évidemment, des sites exceptionnels, très courus, mais on est toujours séduit, on peut les voir et les revoir. Et je pense que nous, aujourd'hui, sommes saisis. Imaginez ces Romains Ils sont saisis. Vous savez, les Romains, ils ont un drôle de rapport avec les Grecs. À la fois, ils veulent s'en distinguer, mais ils se mettent à l'école grecque. Il y a bien des Catons, etc., qui disent « Nous, Romains, on n'a rien à voir avec ces Grecs, etc. » Mais enfin, beaucoup de patriciens ne respectent pas la carte scolaire et cherchent à placer leurs enfants dans les bonnes écoles où les rhéteurs sont des Grecs. Et, je le répète, ils découvrent la Grèce en découvrant Syracuse. Après, ils feront la conquête proprement de la Grèce. Mais vous voyez, on a des sites qui ont l'importance de sites qui se trouvent aujourd'hui en Grèce. On est véritablement au cœur. Alors évidemment, la période romaine, la période qui suit, a eu, après cet âge d'or de la Grèce, cette splendeur, a eu une, je dirais, un peu plus mauvaise presse. L'historiographie italienne, et en particulier des Siciliens, passe beaucoup plus vite sur la période romaine. Sauf que la période romaine, elle dure plusieurs siècles. Et que les Romains entretiennent un rapport extrêmement intéressant avec la Sicile. La Sicile, c'est d'abord la première province romaine. C'est-à-dire, je ne veux pas dire la première province en importance, c'est le premier à porter ce nom de province. Comme si ce détroit de Caribe et Silla, vous savez, entre Messine et Reggio di Calabria, était une frontière. Bien sûr, elle est une frontière. En plus, vous savez que ce n'est pas facile de naviguer dans ces eaux. Mais elle est aussi presque comme une frontière psychologique. Le sud de l'Italie va être annexé beaucoup plus facilement. On va d'abord y passer le droit latin, puis le droit romain beaucoup plus vite. La Sicile, il y aura du retard. Comme si elle était à la fois italienne, mais elle avait encore ce fort faciès grec, cette forte tradition grecque, qui en faisait une île encore un petit peu à part. Les Romains, néanmoins, entretiennent, je le disais, des rapports importants, avec la Sicile, et entre autres, des rapports économiques. La Sicile devient une grande partie du grenier à blé de l'Italie. C'est-à-dire que du pain et des jeux, le pain, il venait en grande partie, pas exclusivement, il va venir ensuite d'Égypte et d'autres régions, mais il venait en grande partie de la Sicile. Vous avez une fresque très célèbre à Ostie, c'est le port de Rome, et où vous avez la représentation des quatre zones d'où arrive le blé, et vous avez la représentation dans une des parties de la Sicile. Alors, les Romains, est-ce qu'ils ont laissé aucune trace sur l'île ? Le problème, c'est que les Romains, ils construisent, vous savez, beaucoup en briques. Et la Sicile, il faut comprendre que tous les siècles, il y a à peu près un traumatisme géologique, je cherche d'autres mots, qui fait que, une partie des constructions disparaît. Et c'est le cas sans doute de beaucoup de constructions romaines que l'on découvre aujourd'hui. Mais soyons clairs, elles intéressent quand même plus l'archéologue spécialiste qui redécouvre un petit bout de mur, etc. On est plus séduit par ce que je vous ai montré auparavant, ou là, le théâtre grec de Taormine, vous vous en doutez. Néanmoins, on a un beau vestige. C'est au centre de l'île, à Piazza Armerina. Piazza Armerina, c'est proprement près du centre. Donc, si c'est au centre de l'île, c'est au centre du monde. C'est là où Zeus a fait tomber la pierre, c'est l'umbilico del mondo, c'est le centre du monde. On est tout près, il y a une grande villa, entendez par villa, une grande propriété foncière à la tête, qui va être utilisée pendant plusieurs siècles. Et dans cette villa, peut-être vous le savez, il y a des fresques absolument remarquables, dont là vous avez un exemple, des mosaïques, absolument remarquables, là vous en avez un exemple. La Sicile romaine, elle va être un lieu aussi, je dirais, de villégiature, de repos pour l'aristocratie romaine ou l'aristocratie napolitaine, mais essentiellement romaine, parce qu'elle va moins connaître que les autres régions d'Italie la grande vague de ce que l'on appelle, je vais employer le mot, même si aujourd'hui les historiens préfèrent d'autres choses, les invasions barbares, c'est-à-dire les Ostrogoths, les Visigoths, Vandales et autres peuples. Alors elle va en connaître comme ça, mais moins, elle va être beaucoup plus à l'abri de ces invasions, au point même qu'un des grands chefs Ostrogoths, qui s'appelle Théodoric, voulait en faire le centre de son empire. Il y a quelque chose là qui aurait pu se faire qui ne s'est finalement pas fait. Puis vient une période qui a été très longtemps absolument considérée par l'historiographie italienne comme sans importance et période très négative, qui est celle de la domination, et là vous avez montré celle-là, oui, bon, de la domination byzantine. Vous le savez, l'Empire romain, pour faire simple, éclate en deux. Il y a l'Empire romain d'Occident qui, lui, disparaît, est englouti par les royaumes barbares. Bon, je trace les choses à la serpe. Et l'Empire d'Orient qui se maintient et qui va finalement avoir pour capitale Istanbul, enfin Constantinople. Cet empire romain d'Orient a toujours l'idée, qui deviendra de plus en plus théorique, de reconquérir l'Occident, ce qui explique aussi plus tard le Saint-Empire romain germanique. Mais ça va prendre vraiment une tournure très importante avec l'empereur Justinien, parce que l'empereur Justinien, alors la petite histoire dit qu'il a fait un rêve, et ce rêve lui a dit qu'il faut faire la conquête de la Sicile, il faut reprendre la Sicile aux barbares et éviter que la Sicile soit en proie aux invasions des pirates de l'Afrique du Nord. Et à partir de là, va s'opérer la reconquête de l'Italie et la reconstitution de l'Empire romain. La reconstitution de l'Empire romain ne se fera pas, mais en revanche, la Sicile sera pendant 3 siècles byzantine. Pourquoi je disais ça, c'est pas important? Vous avez des grands historiens du 19e siècle, vous savez, c'est l'histoire, 19e, c'est le siècle de l'histoire, on s'intéresse au passé, c'est les grandes écrits aussi sur l'épopée des Normands, avec par exemple un historien comme Chalandon, c'est 19e et puis début du 20e. On cherche à redécouvrir le passé. Là, vous avez un personnage qui a d'ailleurs été exilé en France, qui a eu une importance en France, c'est Michele Amari. Michele Amari, il décrit cette période, il dit que c'est l'époque où la Sicile était comme la Sibérie de l'Empire. Alors, choisir le nom de Sibérie pour la Sicile, il y a sans doute un problème dans le climat, mais il voulait dire quoi? La Sibérie de l'Empire, il pensait, évidemment, à tous ces exilés, vous savez, politiques, que l'Empire, qu'on exilait en Sibérie, quoi, qui partait au fin fond d'une zone qui était à peine conquise par les Russes. Donc c'était l'extrémité sans importance de l'Empire. Les historiens actuels, depuis une vingtaine d'années, ont totalement cassé ce préjugé. La Sicile byzantine, pendant 3 siècles, elle est florissante. Et l'Empire byzantin investit énormément dans cette île, en hommes, en argent. Et je prendrai un seul exemple, parce qu'après, c'est celui précédent, c'est le combat du général, c'est l'empereur Justinien qui triomphe, et avec ses généraux aussi, je vous montre le dernier, c'est Bélisaire, le grand général byzantin qui s'est battu en Sicile, et vous voyez, dont le destin est terrible, puisque dans le tableau de Jean-François Marmontel, qui se trouve aux Beaux-Arts de Lille, il finit aveugle et vivant de la, même pas de la charité publique, de la charité de ceux qui veulent, alors que ça a été une grande figure, comme l'empereur Justinien, qui véritablement a voulu garder la Sicile dans le giron de l'Empire. Et je disais cet exemple, c'est qu'en Sicile, à l'époque byzantine, c'est une des rares régions, et sans doute, peut-être même la seule pour certains, où on continue à avoir une monnaie en or. Ce que un historien a appelé le dollar de l'époque. Le dollar de l'époque, il est en Sicile. Les autres monnaies, vous le savez, c'est des monnaies en argent, comme le denier de Rouen, par exemple, on frappe en argent. En Sicile, on continue à avoir une monnaie d'or, et donc ça veut dire évidemment que quelque chose de signe d'une économie florissante, ou du moins relativement florissante. Suit une rupture, c'est, on va prendre plutôt la diapositive suivante, la conquête par les Arabes et les Berbères, pour être d'ailleurs le plus précis possible. C'est-à-dire plutôt les Arabes Palerme, plutôt les Berbères dans le sud de l'île, entre autres Agrigente. Là, il y a un changement. Un changement important parce que la Sicile, qui était dans la sphère occidentale, passe dans une autre sphère. Mais elle est toujours au cœur d'une grande civilisation. Ce n'est plus la Koiné grecque, ce n'est plus le monde romain, c'est l'Oumma musulmane, l'ensemble des musulmans. Et cette île est conquise avec peine, hein, près de plus de 100 ans de conquête. Intéressant par rapport aux Normands qui vont la conquérir en trentaine d'années, ou la reconquérir en une trentaine d'années. Mais évidemment, cette période, elle est extrêmement importante. Alors, ce n'était pas facile d'écrire sur cette période parce que elle donne lieu à deux types de lectures. Une, aujourd'hui très minoritaire, qui consisterait à dire que la Sicile a été dominée, écrasée, etc. Ou au contraire, celle irénique, qui tendrait à faire de cette période une sorte d'âge d'or de la Sicile, de manière acritique, où l'île se serait vraiment développée sous l'influence des Arabes. C'est un peu la thèse de Michele Amari, puisque c'était la période de la Sibérie avant, les Byzantins faisaient rien, les Arabes arrivent, et là, la Sicile devient un jardin florissant. Pardon. C'est le cas avec ces palais extraordinaires comme le palais de la Ziza. Là, on est au XIIe siècle, alors c'est plus les Arabes ne sont plus là. C'est les Normands qui l'ont repris, mais c'est une construction des Arabes. Et il faut vous imaginer devant des jardins, des jets d'eau. Alors, c'est vrai qu'il y a un goût, une passion de ces hommes à l'origine du désert pour l'eau, pour la végétation. Mais les Romains avaient déjà fait des sources, avaient déjà travaillé. Voilà, il y a une, comment dirais-je, tout n'est pas arrivé avec les Arabes, mais les Arabes indéniablement ont donné un, je dirais, ont transformé l'île comme un lieu, comment pourrais-je dire, un lieu qui pour eux, oui, est un jardin. Quand on lit beaucoup de poésie arabe parlant de la Sicile, c'est un lieu paradisiaque. Et d'ailleurs, quand ils quitteront cette île, ça, c'est des poèmes très déchirants. Ils quittent vraiment ce qui est pour eux une patrie, ce qui est pour eux véritablement une des îles qu'ils ont su véritablement transformer et rendre agréable. C'est intéressant de voir que ces palais ne sont pas des palais défensifs, comme vous le constatez. Il n'y a pas besoin. Et là, vous voyez les jardins. Alors, ils ont fait un petit effort. Là, j'y étais à Pâques pour précisément, vous voyez, là, ils essayent de refaire les jardins. Pas très beau, mais quand vous voyez dans l'état où c'était dans les années 80, on peut se dire qu'on est sur une démarche positive de redécouverte du patrimoine. Et vous voyez, là, tout ça, il faut l'imaginer avec de l'eau, évidemment, sans les buildings au fond. Et la période de la Sicile, pourquoi elle fascine tant ce moment arabe de la Sicile, comme va fasciner le moment normand et ensuite souabe ? C'est qu'au fond, il y a une relative coexistence entre chrétiens et musulmans. Alors, il ne faut pas enjoliver les choses. Je disais, il faut se garder d'une lecture irénique. Mais il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de déportation. Enfin, déportation au sens... voilà, on déplace les populations, hein, bien sûr. En gros, il y a des sujets avec des privilèges chez les musulmans, et il y a des sujets plus frappés par les impôts, etc. Alors, on les oblige, c'est pas un gilet jaune qu'on les oblige à porter, mais c'est des signes distinctifs prouvant qu'ils sont chrétiens ou juifs. Parce qu'il y a une forte population, enfin une communauté juive importante en Sicile, qui a disparu en même temps que celle espagnole, enfin qui a quitté l'île en même temps que celle espagnole, au XVe siècle, et ils sont soumis à toute une série d'impôts, de vexations, mais il n'y a pas de persécution. Et il y a une forte influence de la civilisation arabe. On le verra lors de l'épisode des Vêpres, entre autres. On pense sans doute, alors évidemment, dans la mode, dans la manière de vivre, qui va ensuite totalement, d'ailleurs, séduire nos Normands, qui vont... Alors voilà, un palais arabo-normand, et puis, ce symbole beaucoup plus, là aussi, l'église de la Martorana à Palerme, et peut-être encore plus célèbre, le cloître de Monreale. Alors, c'est normand. Évidemment, les Normands, vous le savez, vont arriver en Sicile, et très souvent, cette période est considérée comme l'âge d'or de la Sicile. Pourquoi ? Alors, je ne l'entre pas, ça mériterait en elle-même une conférence sur les Normands en Italie et les Normands en Sicile. Mais qu'est-ce qui est important ? La conquête est relativement rapide. Et évidemment, avec la conquête, l'île repasse dans le giron latin et chrétien. Mais la conquête des Normands ne saurait être assimilée à une croisade. Elle est beaucoup plus une conquête, je dirais, d'ordre militaire ou des familles, justement, la famille, entre autres, des Hauteville, qui deviendra Altaville, là, une des grandes, grandes familles, trois, quatre grandes familles à Palerme, les Hauteville de Pirou, là, d'un petit bled, une petite famille, hein, de, voilà, qui va faire la conquête, d'une certaine manière, du sud de l'Italie, et une des branches, avec Roger, va s'imposer en Sicile. Et surtout, pourquoi l'âge d'or ? Parce que la Sicile est totalement indépendante. Bien sûr, elle fait partie toujours d'un grand ensemble de civilisations qui, cette fois-ci, est la féodalité. Avec les Normands, sont introduits la féodalité, c'est-à-dire le château fort, le chasement, ça veut dire que voilà, le pouvoir est fondé sur la possession de la terre, vous savez, suzerains, vassaux, etc., qui n'existait ni dans le monde byzantin, ni dans le monde arabe. Donc elle entre, vous voyez, assez tard dans la féodalité par rapport à d'autres régions. Mais elle y entre, donc elle fait partie d'un ensemble de civilisations, mais elle est un royaume. Il y a peu de royaumes. Et elle est un royaume qui compte, un des 5-6 plus gros royaumes de l'Occident, de l'Europe occidentale. Et évidemment, ça va être un âge d'or, parce qu'ensuite la Sicile perdra cette indépendance. Elle la perdra avec les Souabes, et surtout elle la perdra ensuite avec la domination aragonaise puis espagnole. Donc là, si vous voulez, cet âge d'or de l'époque normande, elle vient de là. En plus, les Normands inventent, je dirais, sont capables de permettre une coexistence entre des sujets différents. Il y a des sujets en Sicile qui parlent latin, enfin, des langues dérivées du latin. Il y en a d'autres qui parlent toujours grec. Le clergé, je pense que la messe en Sicile devait beaucoup ressembler à ce qu'est la messe aujourd'hui dans un pays orthodoxe, à ce qu'est la messe aujourd'hui en Grèce, en Bulgarie, en Russie. Certes, il n'y a pas la doctrine suit Rome. Du point de vue doctrinal, on suit Rome. Mais du point de vue, je dirais, liturgique, beaucoup de chants se font encore en grec. On a ce faciès-là. Donc il y a des sujets grecs. Il y a bien sûr des sujets arabes. Ils ne parlent pas tous. Et à la cour des premiers rois normands, ça se gâte un peu après, on y parle latin, on y parle le français de l'époque, peut-être matinée de normand, mais ça se perd au fur et à mesure, l'influence normande, parce qu'il coupe les liens, il se marie avec des femmes d'autres régions. On y parle le grec, on y parle l'arabe. Et des actes sont rédigés dans ces langues. C'est-à-dire, ils sont rédigés en latin, en grec et en arabe. À une époque où, je le répète, ça va être encore plus fort après, c'est l'époque des croisades. Et ces rois normands, vous voyez, prennent à eux, s'acclimatent. J'ai envie de dire, c'est le vieux mot là, des poètes de la Pléiade, l'innutrition. Ils prennent à eux, ils absorbent une grande partie de ces hommes du Nord absorbent les délices. Ces aspects paradisiaques, ces palais, ces jardins de la culture arabe, et ils s'y trouvent extrêmement bien, ces rois normands. Et donc il y a aussi cet âge d'or un peu d'une sorte d'équilibre entre des civilisations. Alors il ne faut pas exagérer, les musulmans, ils ont un peu le statut qu'avaient les chrétiens auparavant, c'est-à-dire qu'ils sont un peu, pas des sous-citoyens, mais ils sont plus taxés que les autres. C'est à eux de porter des insignes, c'est à eux d'avoir une série d'interdictions, etc. Alors certains vont préférer partir, mais vous voyez, il n'y a pas de persécution. Alors si, par moment, l'histoire est toujours compliquée, quand il y a des troubles, on s'en prend toujours un peu aux minorités, comme ça, il y a des mouvements. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il y a une relative coexistence. Et cette coexistence, je trouve qu'elle est bien représentée dans ce cloître. Ce cloître de Montréal et au-dessus de Palerme, on a une structure qui renvoie à la culture cistercienne. On a des architectes de France, on a des artisans qui, entre autres, vont sculpter les magnifiques chapiteaux. Vous savez qu'aucun des chapiteaux, tous sont différents, aucun n'est pareil, qui sont des artisans arabes. Et ces gens travaillent main dans la main. Il y a une sorte d'harmonie entre des influences différentes qui vont précisément faire ce style qu'on voit là encore. Si caractéristique de la Sicile normande. Et là, vous avez une stèle funéraire. C'est intéressant parce que vous voyez, elle est écrite en grec, en latin, en arabe et en judéo-arabe, une autre forme d'écriture. Bien sûr, toujours sur ces Normands, le palais des Normands de Palerme, avec l'extraordinaire chapelle palatine. Et puis, notre Roger, il se fait couronner roi, autant choisir le Christ, c'est encore ce qu'il y a de plus solide, pour se faire couronner roi. Et alors c'est intéressant, même l'habit, c'est pas un habit, c'est aussi un habit qui renvoie par bien des aspects au monde oriental, et ça sera encore plus fort avec Frédéric II. Et puis vous voyez à côté, oui vous l'avez, les fameuses grandes marionnettes, les poupies. C'est des marionnettes qui ont à peu près cette taille. Alors elles, c'est pas du tout de l'époque des Normands, c'est 19e siècle. Mais elles parlent de quoi ? On parle d'épopées. Oh, c'est un peu du bricolage, hein. C'est des épopées qui renvoient à Charlemagne, on reprend l'histoire des Normandes. Il ne faut pas chercher la vérité historique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage positif, c'est le Normand. Le personnage négatif, c'est souvent le Sarrasin. Précisément, le Normand gagne. Et là, c'est une des traces dans le folklore populaire, mais un folklore important, hein, il y a toute une histoire, il y a tout un geste, c'est pas facile à manier ces grosses marionnettes. Hein, eh bien, là, c'est une trace dans la langue, dans la langue, dans les meubles, il y a des expressions, par exemple, je parle sous le contrôle de ce Sicilien, la pomme en italien se dit mella, en sicilien c'est pomma. Alors ça, c'est un exemple facile, hein, la pomme. Et il y a d'autres mots pour les chaussettes, etc. Les chaussettes se disent aussi pareil, sauf que c'est déformé par l'accent. Il y a l'armoire, évidemment, l'armoire normande, ben oui, elle existe, et elle est aussi, il y a le mot qui est très très proche en sicilien. Il y a comme ça des traces. Il y a des traces, hein, vous savez, dans ces charrettes peintes, qui sont extrêmement belles aujourd'hui, qui sont dans des musées, où très souvent on représente des épisodes de la geste des Normands, et puis ces combats. Il y a des fêtes aussi. Il y a des fêtes qui célèbrent cette race des Normands. Les Normands, finalement, il reste peu de temps, moins d'un siècle, hein, le 12e, mais il laisse une trace extrêmement forte. Et cette trace extrêmement forte, je crois qu'elle vient d'une sorte d'âge d'or, parce que la Sicile était indépendante. Et c'est vrai qu'elle va avoir cette quête d'indépendance par la suite. Alors après la Sicile, elle connaît un personnage assez extraordinaire, j'aurais pu le faire, c'est Frédéric II. Attention, pas Frédéric II, celui de Voltaire. Hein. Frédéric II, qui par sa mère est normand, et par son père est allemand, enfin swabe. Frédéric II, c'est un personnage extraordinaire. Il domine toutes les 50 premières, enfin la moitié du XIIIe siècle. C'est l'époque, XIIIe siècle, c'est l'époque de Saint-Louis. C'est l'époque de François d'Assise. C'est une époque, c'est un haut lieu, un moment fort du Moyen-Âge. Et là, on a un personnage extraordinaire. Alors, c'est vrai que ce personnage est lié à la Sicile et aussi au sud de l'Italie, en particulier à la région des Pouilles qu'il aimait tant. Donc, il est sicilien, mais son cœur aussi bat plus, peut-être pour encore, le sud de l'Italie. Et c'est un personnage joué en couleur, trois fois excommunié. Trois fois. Une fois, l'histoire a quand même mérite, parce que peut-être ça serait la solution au problème israélo-palestinien. Il est allé à Jérusalem, le pape le forçait, disait « faites la croisade », il reportait tout le temps. Finalement, il part à l'affaire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un pariage, c'est-à-dire, c'est le terme technique pour dire « je m'entends avec le sultan sur place pour qu'on puisse coexister ». Le pape en mange sa mule, ou sa, je ne sais pas, ou donne des coups de mule sur sa table, s'en étrangle de colère. Hein. Et il y a là un personnage trois fois excommunié, alors à qui on a prêté des choses extraordinaires. Hein. Certains en ont fait un Gilles de Rais, qui aurait fait des expériences terribles. Vous avez là un personnage extrêmement fort, et qui évidemment, là aussi, va marquer la Sicile, entre autres, va faire une série de ses châteaux forts. Là, vous avez celui de Catane. Vous en avez de très spectaculaires au centre de l'île, vers Enna aujourd'hui, Castro Giovanni avant, la ville de Colaiani, dont Dan parlait, et qui sont le château fort arrive. Hein, il arrive avec les Normands. Hein. C'est quelque chose de très fort pour les Siciliens, parce que avant, le château, c'était les villes. On avait une structure de ville. C'est la ville avec ses remparts qui protégeaient. Désormais, c'est le château fort qui arrive avec les Normands, et encore plus avec les Swabes. mais le château fort qui écrase. On entre véritablement dans le monde de la féodalité. C'est une vraie rupture pour le monde sicilien, qui était un monde depuis l'époque grecque fondé sur la cité. La cité qui protégeait. Là, c'est le château fort. Et là, on a un épisode extrêmement important, une période forte pour la Sicile. Et là encore, la Sicile connaît une forme d'âge d'or, parce que coexistent plusieurs cultures, entre autres, toujours ces cultures musulmanes, grecques, latines, avec ce personnage extraordinaire, qui, vous le savez, est un des plus grands savants aussi de son temps, parlant toutes les langues, conversant avec tous les savants de son époque, qui va aussi profondément marquer son siècle. Et puis, à la suite de la mort de Frédéric II, ses enfants vont pas réussir à s'implanter et l'île va passer sous la domination des Angevins. Va passer, pour le dire simplement, sous la domination française. Et ces Français vont laisser finalement un souvenir assez bref, puisque ils vont être chassés. Et là, vous avez un tableau du milieu du XIXe siècle, un tableau d'histoire qui montre les fameuses vêpres siciliennes. On est en 1282, vêpres siciliennes, parce que là, il va y avoir un épisode dans lequel, après une fouille, les Angevins voulaient contrôler l'île et donc voulaient s'assurer qu'il n'y ait pas des armes dissimulées sous les vêtements. Ils vont fouiller une femme qui sans doute devait porter une forme de tchador à la mode musulmane de l'époque. Fouille, viol, en tous les cas, c'est le déclenchement d'une très grande révolte qui chasse les Angevins. Pour la petite histoire, on leur faisait prononcer un mot et s'ils prononçaient mal, clac, chichirou, s'ils prononçaient mal, un coup d'épée. Donc de l'importance d'apprendre les langues avec le bon accent, vous voyez. Chasser les Angevins, pour beaucoup, cet épisode de 1282, loin d'être le signe d'une vitalité, a été le début de la fin pour les Siciliens. Alors, moi, je pense que c'est ni le début de la fin, ni une tragédie. Bon, même si je suis Angevin, donc pour moi, c'est une tragédie. Mais à titre personnel, mais autrement, ce n'en est pas une dans le sens où l'île va ensuite passer sous une longue domination du monde hispanique. Je passe vite, d'abord aragonaise et espagnole. En gros, dans toute l'époque, la fin du Moyen-Âge et toute l'époque moderne. Avec, là c'est vrai, elle va devenir beaucoup plus une périphérie de ce monde hispanique. Seul Charles Quint ira visiter l'île, aucun autre roi d'Espagne. C'est vrai que là, elle va être un peu ce que un grand historien qui s'appelle Maurice Aymard a appelé la belle endormie. Elle va relativement bien vivre, elle est relativement riche. J'en ai des exemples, c'est ces fameux quattro canti, ces quatre coins à Palerme, hein, avec ces très très belles rues. Et là, je vous montre l'autre. Ah. Là où vous avez aussi des détails de cette architecture extrêmement belle de l'époque espagnole. C'est une forme déjà d'architecture baroque. Donc, on pourrait dire, pour résumer, parce que je vois que le temps passe, culturellement, elle reste très importante, mais politiquement, elle joue un rôle bien moindre. Elle est une périphérie. Après la bataille de Lépante, elle a plus grand rôle. Et économiquement, elle est dans un paradoxe. Fernand Braudel disait qu'en Sicile, on mangeait son pain blanc. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de production. Il y a peu de famine. Il n'y a pas de famine même, il y a des moments de disette, mais il n'y a pas de famine. Mais il n'y a pas cette modernité qui se fait vers la façade atlantique, qui va se faire à Anvers, à Bruges, etc. Au fond, on vit d'une rente. Il y a tout un système dans lequel le producteur, absent souvent de ses terres, de grandes terres, qu'on n'exploite pas de manière intensive, confiant ça à des intendants qui ne cherchent quoi à faire. Et à faire leur beurre, si vous me passez la formule. Et sur le dos du propriétaire et sur le dos des paysans. Tout ça sans qu'il y ait une sorte de dynamisme et de modernité. Alors, au XVIe, XVIIe, ce n'est pas encore trop grave, mais la Sicile va finir par décrocher par rapport à la façade atlantique. Et là, c'est vrai, à être un peu en retard dans le cycle économique moderne. Mais je le disais, dans le domaine de la culture, elle n'y est pas. Et je pense qu'un des très bels exemples, c'est à la toute fin du XVIIe, un tremblement de terre dans le sud-est à Noto. Noto détruit complètement. Modica, Chicli, une partie de Raguse détruit complètement. Vous comprenez qu'à l'époque, il y a les morts sur le moment, mais il n'y a pas tout le système sanitaire qui existe aujourd'hui. Donc c'est plein de morts ensuite par les épidémies, etc. La noblesse, le vice-roi de Sicile, la Sicile mettait un vice-roi, la population se prend en main. Donc vous voyez cette idée d'un peuple fataliste, etc. Non, non. Noto, c'est un très bel exemple. Et on reconstruit sur le lieu même, comme par un défi, cette ville aujourd'hui extraordinaire, qui ne fascinait pas tant les voyageurs au XIXe comme Goethe, qui préférait le monde antique, parce qu'à Noto, tout est baroque. C'est ça qui est extraordinaire, tout. Les églises, les maisons, les serrures de portes, les balcons, tout est baroque, parce que tout est de la même époque, tout est construit en très très peu de temps. Ce baroque sicilien, à côté de quoi le baroque romain nous semble quasiment extrêmement sage. Alors, pour ne rien dire de notre baroque français qui, lui, est extrêmement encore plus sage. On a un baroque un peu beaucoup plus contourné, vous voyez, avec ses formes très... vous voyez, c'est beaucoup plus Borromini que Bernin. Hein, et encore Borromini dépassé sur son aile gauche, si je puis dire. Vous avez cette ville extraordinaire. Mais cette ville, c'est quoi? Elle est intéressante parce que c'est véritablement un défi à la nature. Pareil, la cathédrale de Syracuse. La cathédrale de Syracuse qui reprend des monuments, qui s'inscrit là où il y avait des monuments, qui reprend des pilastres, des colonnes de l'Antiquité. Vous voyez cette capacité, on le voit mieux dans l'autre exemple, d'être toujours active. Et puis cet exemple extraordinaire de Serpota, où vous avez là, c'est du stuc. Des œuvres en stuc. Alors même là, agrandi, on ne voit pas, mais c'est... un délire d'Angelo, etc. Alors ça fascinait l'écrivain académicien Dominique Fernandez, vous savez, qui est un amoureux de la Sicile, qui lui, lisait les pages, il y a une véritable extase sur ces petits personnages, tous sont en équilibre, on a l'impression qu'ils vont vous tomber dessus. Et là, voilà, c'est extraordinaire. Derrière, c'est une grande capacité aussi créative. Puis bon, on avance vite. Notre Sicile, là, la villa des monstres, ce qu'on appelle la villa des monstres, à Bagheria. Bagheria, c'est une ville à côté de Palerme. Et vous voyez là des personnages grotesques. Alors, fantaisie d'un prince, un prince qui avait un enfant difforme, voulait-il lui montrer que le monde était tel qu'il se voyait dans la... Peu importe l'histoire, ça prouve une capacité, une fantaisie extraordinaire, un degré d'invention culturelle absolument fascinant. Puis la Sicile, elle devient italienne. Et je dirais, c'est la dernière étape sur laquelle je vais conclure. Elle devient pleinement italienne. Elle devient italienne, entre autres, avec notre Garibaldi, qui lui est niçois, hein, est totalement au nord, mais vous le savez peut-être, il débarque en Sicile, et à partir de là, tout le sud de l'Italie va rejoindre le royaume de Piémont-Sardaigne, et ça va former l'unité italienne, l'Italie qui naît en 1861. La Sicile est partie prenante de l'histoire italienne. Elle n'est pas écrasée. Elle, évidemment, elle souffre d'une série de choses. Elle va souffrir d'une chose qui lui sont imposées. Mais elle est un acteur premier, décisif de l'histoire italienne moderne. Avec toujours cette grande capacité de rebond qu'elle a. Là, on en a un exemple dans l'art. L'art Liberty, le style Liberty, on l'appelle le style fleur aussi, ou le style jeune, Jugendstil, c'est un peu la même chose. Vous voyez, elle n'est pas du tout en marge, là encore, de la modernité. Là, le monument, un des principaux théâtres de l'île. Là encore, je le répète, elle suit le mouvement, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine artistique. Économiquement, c'est vrai qu'elle connaît des difficultés, mais là encore, avec une capacité de rebond extraordinaire. Pensez que dans les trois premiers lustres du XXe siècle, c'est plusieurs millions de Siciliens qui quittent l'île. Enfin, c'est au moins 1 million qui quittent l'île, principalement pour aller vers les États-Unis, où il y a une communauté, vous le savez très fort, on le sait par une série de personnalités. Donc, c'est loin, c'est évidemment, c'est le signe d'une difficulté si on ne peut pas vivre et gagner sa vie. Mais c'est aussi le signe d'une vraie capacité qu'ont globalement d'ailleurs les Italiens, mais particulièrement les Siciliens de cette époque, d'aller comme ça, partir aux États-Unis, hein, et on ne fait pas tout de suite fortune, et on n'est pas tout de suite, bien sûr, il y en a qui profitent de quelques réseaux non recommandables, mais pour la plupart, évidemment, ce sont pour aller travailler, et très apprécié d'ailleurs des entrepreneurs américains, parce que prêts à avoir des salaires moindres, etc. Bon, on a là un dynamisme indéniable de cette île. Et puis, au XXe siècle, bon, on a vu là la lutte contre la mafia. Je voudrais juste... Évidemment, là, je suis volontairement rapide pour ne pas abuser du temps et peut-être laisser le temps à deux, trois questions. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est vrai qu'il y a une part importante prise par le phénomène mafieux. Si là, il marque fort l'île, c'est à cette époque. Les années 80 sont terribles quand même pour l'île. Hein, c'est des morts, plusieurs morts par jour, certaines fois, entre mafieux, entre clans, des juges, des journalistes, des hommes politiques qui paient aussi. Le frère, par exemple, du président actuel de la République, Sergio Mattarella, son frère dont le prénom, je ne m'en souviens plus, qui était leader pourtant de la démocratie chrétienne, qu'on a accusé quelquefois de collusion avec la mafia, a été tué. Et vous voyez, au plus haut sommet de l'État, le frère du président a été tué, et qui est sicilien, a été tué par la mafia. Donc là, c'est vrai qu'il y a une image très sombre de la Sicile. Très sombre de la Sicile. Mais je voudrais montrer aussi sa face lumineuse. Alors je dirais que ce phénomène mafieux, il recule hein, fortement. Je ne veux pas être trop optimiste, mais il recule. Hein. On pourrait en discuter si vous voulez. Mais je voudrais terminer par... Je vais un peu vite à la fin, c'est toujours pareil. Deux faces lumineuses, c'est ce Renato Guttuso. Je pense que vous le connaissez, ce peintre, là qui nous peint la Vucciaria. Et la femme de dos, c'est aujourd'hui, on le sait, d'où l'intérêt de l'érudition, c'est sa maîtresse. Hein, donc cette femme qui fascinait tant de dos, qu'il peint si amoureusement, c'est sa maîtresse. Au milieu d'un marché qui aujourd'hui malheureusement a disparu, on ne sait pas pourquoi, il a disparu, mais c'est un marché absolument extraordinaire. Vous voyez qu'il montre cette richesse extraordinaire de l'île où les sons, les odeurs et les cris, on l'entend fasciner les anthropologues parce qu'on ne comprend pas trop ce qui est dit, comme ça. Et il y a un tableau très célèbre. Et puis moi, je voudrais terminer par un personnage sur lequel j'avais travaillé, qui est Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia, c'est quand même un des... Alors, c'est la petite ville de Racalmuto, une petite ville au nord d'Agrigente. Je ne sais pas si vous le connaissez comme écrivain, mais c'est un des écrivains qui aujourd'hui, je crois que toute son œuvre est traduite en français, toute son œuvre se trouve en poche, et beaucoup de films ont été tirés de ces livres. Je pense entre autres à Cadavre exquis avec Charles Vanel, Lino Ventura. On a comme ça plusieurs films de lui, dont le plus célèbre est Cadavre exquis, qui a été tourné par Francesco Rossi, qui a beaucoup réfléchi sur la mafia, mais pas seulement, et à qui l'on doit une œuvre extrêmement érudite, bon, qu'on peut discuter. Et là, vous avez sa tombe avec ce mot « Et nous nous souviendrons de cette planète ». C'est ça qu'il a écrit sur sa table. « Ce ne ricorderemo di questa pianeta ». Je ne sais pas si oui, vous le voyez, mieux que moi d'ailleurs. Et j'ai voulu terminer par cette image pour montrer que, voilà, on a un écrivain. Pourquoi j'ai voulu terminer par cette image ? Totalement sicilien, 100% sicilien. Alors, il écrit en italien, il n'écrit pas en sicilien. Mais, croyez-moi, il a fait un dictionnaire des mots, des expressions siciliennes, qui parle essentiellement de quoi ? De la Sicile. Mais la Sicile est comme, il l'a dit dans une interview avec une grande journaliste qui s'appelait Marcel Padovani, qui avait été la grande journaliste du Nouvel Observateur pour l'Italie, la Sicile, c'est la métaphore du monde. Alors, ça, évidemment, si on prend ça, c'est la métaphore du monde. On dirait Sciascia, il a, pour parler un peu vulgairement, il a la grosse tête, il voit la Sicile. Non, c'est qu'au fond, à travers les particularités de la Sicile, c'est aussi, d'une certaine manière, l'histoire européenne, y compris, par exemple, par la particularité de la mafia, la forme de pouvoir qu'elle est, loin d'être spécifiquement et exclusivement sicilienne, elle est aussi la métaphore de forme de corruption qui existe aussi ailleurs. Pour le meilleur et pour le pire, voyez cette Sicile aussi, en l'étudiant de près, en la regardant, elle est bien la métaphore d'un monde. C'est au fond, moi, à mon plus modeste niveau, et talent en moins, parce que si j'avais le talent de Sciascia, ben, je ne serais pas là. Enfin si, je serais là, je serais content d'être là, mais je veux dire, je ferais des livres, beaucoup plus de livres. Il a, je crois, c'est cette idée que la Sicile, voyez, Oui, elle est originale, mais n'en faites pas une terre étrangère, n'en faites pas une terre qui échapperait à l'histoire, n'en faites pas une terre qui serait dans une sorte de spécificité pétrifiée, comme ont pu l'écrire certains, pétrifiée dans son climat, dans une sorte de mentalité auquel, au fond, on ne peut pas comprendre. Vous savez, comme les gens qui disent « Ah bah tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas sicilien. » Si, parce que précisément, la Sicile, elle est, je crois, et j'espère l'avoir modestement montré, la métaphore du monde. Je vous remercie.